Strip Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée fanzine. Un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous allons le plaisir de recevoir Antoine Marchalot pour parler de son travail et plus en particulier de sa bande dessinée Une vie des familles agréables, publiée par les Roca Marteau. En chronique, nous parlerons de Enfants libres, des Enfants libres, publié par la boîte à bulles, Ne regarde pas derrière toi, des Colas Annabelle, par aux éditions Ça et là. Et nous terminerons avec une chronique sur Un travail comme un autre, d'Alex Inker, publié par les éditions Sarbacane. Mais commençons par l'interview.
Antoine Marchalot, vous êtes né dans les années 80, alors que nous sommes dans les années 2020. Je laisse les auditeurs faire les comptes approximatifs pour votre âge. Vous avez publié des albums, Vie de famille agréable et Histoire croûte au Roca Marteau, mais aussi de nombreux fanzines, notamment avec le collectif Arbitraire. Bon, je dis fanzine pour utiliser un terme regroupant une production très variée. Vous avez aussi été dessinateur de presse pour le journal Le Monde. On va revenir sur tout ça. Et puis, bien sûr, vous avez été primé, je ne l'ai pas dit, sélectionné dans le cadre du Festival d'Angoulême, où pour notre part, eh bien, on vous a découvert à travers l'expo dédiée à votre travail, une expo qui était intitulée La bande d'Antoine Marchalot dessinée. Alors, bah Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Où est-ce qu'on est le soir?
Merci d'être avec nous. Ah, je vais commencer.
Oui, vas-y Camilla, parce que tu as plein de questions.
Oui, Antoine, la BD, l'illustration, c'est un rêve d'enfant, c'est arrivé plus tard. Comment vous êtes arrivé là-dedans?
J'ai commencé par l'illustration. Je pourrais pas dire que c'est un rêve d'enfant, vraiment, parce que je me suis jamais, avant peut-être la terminale, dit que... je ferais de l'illustration, de la bande dessinée, mon métier. Pas sûrement pas de la bande dessinée. Enfin, c'était vraiment pas un truc dans lequel je me projetais. Mais il s'est avéré qu'en terminale, il a fallu quand même m'orienter un peu. Et je me suis bien quand même assez vite rendu compte que un vrai travail, des vraies études, j'allais pas trop, ça allait pas trop m'intéresser. Et du coup, un peu de fil en aiguille comme ça, je me suis retrouvé à entendre parler d'une école d'art. Moi j'habitais à Brest et j'ai entendu parler d'une école d'art à Lyon qui avait l'air chouette. Et donc je me suis dit, ah, peut-être faire une école d'art en fait, ça serait bien. Et donc je me suis mis sans trop y avoir énormément pensé pendant ma jeunesse. Et donc je suis arrivé en école d'art en me disant que je ferais sûrement l'illustration, quoi, du dessin. Je pensais faire des trucs comme... du caractère design, ce genre de trucs. C'est un peu après que je suis venu à la BD, en fait, avec Arbitraire.
Oui, d'accord. Alors, donc ça, Arbitraire, on va en revenir un tout petit peu par la suite. Et Arbitraire, c'était, bah, où on peut en parler, c'était le collectif, un collectif de fanzines, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est dans cette école d'art à Lyon, justement, il y avait une bande de copains qui étaient... On n'était pas encore dans la même classe quand ils ont commencé Arbitraire. Je ne les connaissais pas trop. Il y avait plusieurs classes... Bon, c'est un espèce de cursus un peu bizarre, mais on n'était pas encore dans un tronc commun, on se connaissait pas. Eux ont commencé, dès la première année de leur cursus, à faire du fanzine, vraiment le fanzine pur tel qu'on l'entend maintenant, c'est-à-dire photocopieuse. Ils se retrouvaient ensemble, ils dessinaient des trucs très, très cracra, ou vraiment un exutoire pour comparé à tout ce qu'on avait d'enseignement très scolaire, tout ça. Eux, ils faisaient ça de leur côté. Moi, j'étais encore très loin de la BD à ce moment-là. Quand ils ont commencé, je les ai rejoints, moi, vraiment, à la toute fin du cursus, en quatrième année. Ils m'ont proposé de faire de la BD. J'en faisais encore, moi, pas du tout d'un point de vue personnel. Je faisais les bandes dessinées qu'on nous demandait de faire en classe, quoi. Et puis, ils se sont dit que peut-être je pourrais faire des trucs intéressants avec eux. C'est comme ça que c'est un peu, principalement grâce à eux, que je m'y suis mis à faire de la bande dessinée, parce qu'ils m'ont demandé de rejoindre les rangs, leur collectif.
Alors j'ai vu que au-delà de la bande dessinée, il y a aussi d'autres choses qui semblent, notamment le collage. On voit ça dans différents aspects de notre travail. Et de manière générale, ce collage, souvent des allures de détournement. Et je me suis dit, étant donné qu'il y avait quand même, on va en reparler, mais un aspect un peu politique aussi dans ce que vous faites, est-ce que vous avez un peu une âme de situationniste?
Je pourrais pas dire ça, parce que je connais pas assez les situationnistes, mais... Mais c'est possible que je me reconnaisse un peu dans leurs idées. Ouais, c'est pas possible. Mais bon, après, j'ai jamais pensé le collage vraiment de manière très... J'ai jamais trop intellectualisé le collage. C'est venu principalement avec Le Monde, je pense. avec mon boulot pour Le Monde, où pour me donner une sorte de fil conducteur, j'imaginais dessiner par-dessus des articles du Monde et du coup réutiliser les photos de l'article en question que j'illustrais. Et puis du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à utiliser des photos que j'avais glanées sur Internet et tout ça. Et comme je suis un fervent utilisateur de Photoshop, c'est assez facile de faire du collage et de réutiliser des trucs comme ça. Du coup, je m'y suis mis un peu comme ça aussi, de manière pas trop réfléchie, en fait, je dois avouer. Et c'est venu parce que ça me fait marrer, en fait, et ça fait des décalages hyper rigolos, avec, je trouve, avec mon style un peu tout sauf réaliste, j'ai envie de dire, et insérer des photos d'hommes politiques, de les retoucher, et puis... Il faut avouer qu'on retrouve un peu, je retrouve un peu ce truc très enfantin de dessiner des moustaches et d'enlever les dents, et dessiner les yeux blancs sur les magazines. J'ai l'impression qu'on a tous fait ça un peu quand on était gamin, de redessiner sur les photos de la Redoute ou un vieux magazine qui traîne, un vieux Paris Match ou Télérama ou je sais pas quoi. Et je retrouvais un peu ce délire un peu enfantin là, et ça me faisait marrer en fait aussi. Le collage était moins politique, on va dire.
Oui.
Et à propos des choses que vous aimez, Antoine, est-ce qu'il y a des dessinateurs, des illustrateurs ou des peintres que vous aimez en particulier, que vous considérez un peu comme vos références?
En termes de bande dessinée, ouais, clairement, je pense que un de mes premiers chocs en termes de bande dessinée, c'était, je pense, j'en ai eu étant plus jeune. Tintin et tout ça évidemment, mais ça, c'est moins quelque chose qui m'influence. Mais quand j'ai découvert Pierre Lapolis justement à l'école, en fin de cursus, à peu près au moment où Arbitraire m'ont proposé de faire des bandes dessinées, j'avoue que ça a été un gros choc. Et je me rappelle pleurer de rire vraiment en lisant les planches de Pierre Lapolis sur Internet. Et je me suis rendu compte que c'était le genre de truc que j'avais envie de faire. Ouais. Donc Pierre Lapolis, gros choc. Peut-être pas si esthétique aussi, forcément, hein. Et aussi en termes de narration, quoi. Un truc complètement déstructuré, pas besoin de savoir raconter des histoires, parce que je sais pas vraiment raconter des histoires, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des trucs vraiment marrants, en fait, avec assez peu comme ça, avec justement du collage, pas forcément du collage tel qu'on l'entend, mais du collage d'idées, tu vois, des trucs... des concepts qu'on balance comme ça et les uns sur les autres, je trouvais que c'était moi, une porte qui s'ouvrait devant moi avec un fond, enfin, plein de trucs incroyables à explorer, quoi. Et puis il y en a eu d'autres, Martin Kuperman, Bouzard aussi, un peu avant Pierre Lapolis, Calvin et Hobbes, ce genre de trucs. C'est souvent des gens qui faisaient de la BD humoristique, quoi, qui m'ont touché.
Ouais, forcément, parce que c'est quand même une part importante.
Ouais.
On va rester maintenant sur la participation à la matinale là, du Monde. Donc de 2015 à 2018, pour expliquer un peu aux auditeurs, vous avez publié tous les dimanches, hein, quasiment, un strip qui s'appelait lemonde.fr, avec un U entre U et Monde. Et donc vous avez fait 116 épisodes comme ça. Globalement, il s'agissait de dessins agrémentés de photomontage, comme vous l'avez dit un peu tout à l'heure, qui se superposaient sur les extraits des articles du journal. Et d'ailleurs, moi, je me suis aperçu que vous étiez un caricaturiste très bon, en fait, parce qu'on reconnaît très très bien les différents hommes politiques, etc. Bref, en général, le propos était critique, caustique, absurde, mais finalement assez sérieux. Il y avait un vrai commentaire politique, finalement. C'était pas purement absurde. Et donc déjà, comme en fait c'est quand même assez différent comme exercice de ce que vous faites par ailleurs, j'avais une première question qui était sur déjà pourquoi cette expérience, comment elle a démarré, qui vous a contacté, comment ça s'est passé?
C'est venu via une collègue d'atelier à l'époque que j'habitais encore à Paris, qui s'appelle Lisa Mandel, que vous connaissez peut-être sûrement, qui faisait une bande dessinée déjà pour la matinale. Et donc elle a envoyé à Frédéric Côté, qui était le journaliste du Monde, qui s'occupait de chapeauter un peu ce concept d'avoir un dessinateur par jour qui faisait son commentaire sur l'actualité. Et donc, les auteurs, il y avait un auteur par jour, ça tournait un peu régulièrement, puis elle a envoyé un PDF avec elle a fait passer un PDF avec mes BD. Il s'avérait que Frédéric Potté connaissait mon travail. Financièrement parlant, c'était quand même assez intéressant d'avoir ce truc hyper régulier. Puis ça me faisait l'occasion, moi, de sortir un peu de mes strips absurdes de l'habitude, qui du truc très fictionnel, ce que je faisais avant, qui partait dans tous les sens. Là, c'était un truc vraiment différent. Donc c'était assez un peu inquiétant au début, j'avoue quand même. Et puis en fait, ça s'avérait quand même hyper intéressant à faire. Et j'étais bien content de l'avoir fait. C'est venu comme ça via Lisa Mandel.
D'accord. Et donc, ouais, là, vous disiez, parce qu'on avait un peu la question sur les motivations, c'est que ça vous sortait un peu d'un univers abstrait, c'était beaucoup plus concret, c'est ça qui vous a
Ouais,
plu.
ouais,
Et
ouais.
en même temps.
C'était aussi un moment où je me posais moi-même plus de questions politiques qu'avant. En fait, c'est assez bien tombé, quoi. Donc,
Ouais, d'accord.
il a
Mais en
fallu.
même temps, c'est un exercice un peu risqué parce que ça vous sort d'une zone de confort.
Ouais, complètement. Il a fallu que je change un peu mes manières de travailler. Avant, moi, donc, je faisais des strips très courts. J'avais une manière de rechercher justement mes scénarios très déstructurés, c'est-à-dire que je balance plein d'histoires, plein de débuts de strips dans des carnets, tu vois. J'écris une case, une première, puis après je passe à un autre truc et je reviens dessus, ce qui me permet d'avoir une narration comme ça très déstructurée. Et s'il y en a qui marche pas, bah, je le laisse de côté. S'il y en a un qui marche, bah, je le garde et tout ça. Et là, c'est une manière de procéder enfin, complètement différente, quoi. On a une semaine pour trouver un strip. Il faut que je trouve un sujet sur lequel travailler, un article sur lequel travailler. Donc c'est un processus beaucoup plus en ligne droite, qui a changé vachement avec mon processus habituel. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir à chaque fois sur un article aussi, ce qui me permettait de me cadrer un petit peu et de pas partir sur tous les sujets possibles. Il fallait trouver un article avec une photo intéressante sur un sujet intéressant, ce qui me permet un peu de canaliser un peu les flux d'idées qui puissent me passer par la tête. Du coup, c'est comme ça que je suis venu à cette idée de partir d'un truc assez concret pour raconter un peu mon commentaire, le truc que j'ai envie de dire sur l'actualité du moment, quoi.
Et donc, pourquoi vous avez arrêté, Antoine, Le Monde?
Ben, c'était pas de mon ressort, c'est cette application, La Matinale, qui ont arrêté de publier des auteurs de bande dessinée. À la base, on était 7 par semaine, après, on est devenu plus que 5, 3. À la fin, il n'y avait quasiment plus personne, et puis ça s'est fini comme ça. Je pense qu'ils n'avaient plus envie de mettre de l'argent là-dedans, ce qui est un peu dommage, évidemment, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue général, je trouvais que c'était un endroit cool pour faire de la bande dessinée. Mais ils se sont pas trop servis, je trouve. Ça aurait pu être un truc d'appel, je trouve. À la bande dessinée, c'est quand même un truc pour les réseaux sociaux, ça peut marcher assez bien, mais ils communiquaient assez peu dessus, et du coup, je pense qu'ils n'ont pas trouvé que c'était financièrement très viable, du coup, le truc a périclité. Moi, j'aurais bien aimé continuer. J'étais content de faire une pause, en fait, parce que 3 ans, c'est long, hein. Moi, je suis assez impressionné de voir les dessinateurs de presse dessiner les mêmes gueules pendant 40 ans. Je trouve que la politique, quand même, telle qu'on l'a subie, ça tourne quand même énormément en rond. C'est toujours les mêmes ressorts. Je trouve ça assez dur de se renouveler, d'arriver à en parler sans avoir envie de foutre une bombe à l'Assemblée nationale ou dans le moment. Au bout de 3 ans, j'étais content de faire une pause. Et des fois, j'y retournerais bien, mais bon, c'est vrai que le faire sans avoir cette deadline hebdomadaire, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse pour moi, que je me fasse un bloc, tu vois, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire.
Mais alors quand même, ce qui est dommage, parce que moi je pensais que c'était de votre ressort, parce que je ne savais pas. D'ailleurs, ils se sont pas justifiés là-dessus, en fait. Ils ont progressivement dit, bon, on arrête.
Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas eu de communication, quoi. Ça s'est éteint à petit feu.
Parce que ce qui est dommage, c'est que vous avez loupé les Gilets jaunes, et puis
Ouais.
ensuite, le Covid-19, enfin, même si
Ouais.
après, c'est
Ouais, y a toujours de quoi parler. En vrai. Effectivement, c'est bien. C'est vrai que ça se renouvelle quand même en soi. Mais ouais, c'est pas grave. Je retournerai. Il y aura d'autres choses. Il y aura sûrement d'autres occasions de refaire ce truc, je pense.
Et dans l'expo Angoulême, on trouvait des dessins, des installations qui faisaient référence à la presse. On a donc un peu envie de déduire que pour vous, la presse est une marotte.
C'est-à-dire que c'est un sujet de prédilection auquel j'aime bien.
Non?
Bah, marotte, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un. Vous comprenez bien ce mot-là.
Pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu.
Le mot marotte, vous le comprenez bien.
Ouais, j'ai fait un slip dessus, mais peut-être parce que je ne connais pas trop ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est une cible un peu facile aussi. C'est-à-dire que. Bon, c'est un truc énorme qui prend énormément de place dans nos vies. Bon, c'est. Ça peut être assez rigolo de taper dessus, quoi.
Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Marchalot.
Donc parlons de l'album Une vie de famille agréable, édité en 2014 pour la première fois au Rocamarteau, et puis réédité en 2018 avec un petit supplément de Mistrip, si j'ai bien compris. Ma première question, elle est simple, parce que je regardais un petit peu sur Internet les commentaires de différentes personnes de la BD et qui ont lu aussi cet album. Et souvent, on revient le terme d'humour absurde. Bon, c'est vrai qu'on comprend tout de suite pourquoi on peut parler d'humour absurde en regardant cette BD. Mais est-ce qu'à votre avis, ça vous décrit complètement, enfin, est-ce que ça décrit complètement votre humour ou vous y voyez-vous autre chose?
Non, je pense que ça me ressemble assez. Enfin, je peux dire que je suis quelqu'un d'absurde, c'est un peu bizarre, je pense que ouais, c'est surtout une vie de famille agréable, c'est un truc qui me correspondait, qui me ressemblait assez bien quand je l'ai fait, quoi. Et moi, ça me ressemble toujours un peu. C'est des histoires sans queue ni tête, c'est difficile d'y voir autre chose. C'était assez peu politique comparé à Le Monde, même si bon, on peut reconnaître des figures sur lesquelles j'aime bien taper en général, mais Une vie de famille agréable, ouais, c'est quand même principalement d'humour absurde quand même.
Ouais, c'est vrai, mais il y a quand même, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même tout un tas de situations où, par exemple, on peut se dire, ah, bah, il fait référence à des sujets, de ce qu'on appelle des sujets de société ou des sujets politiques, comme on veut. Par exemple, sur les animaux, le fait de tuer les animaux, le fait de manger, je me suis dit, ah, il est peut-être vegan, j'en sais rien. Parce que
ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, je ne l'étais pas. Mais je le suis.
Vous ne l'étiez pas.
Comment?
Et avant de le savoir.
Exactement, ouais. En 2014, ouais.
Ah oui, donc finalement, ça travaille sans s'en rendre compte dans le dessin.
Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est marrant que tu poses cette question. En fait, je fais les choses en général de manière très peu. J'y réfléchis pas très fort, en fait. C'est-à-dire, j'intellectualise assez peu mon travail et c'est un truc qui me ralentit en général. Je préfère pas trop me poser des questions. Alors, à l'époque, j'avais pas du tout l'impression de faire des trucs politiques, alors qu'en fait, ça a été peut-être plus que ce que je pensais. Et peut-être pour ça que je me suis arrivé à faire des trucs comme Le Monde, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de parler de ce genre de choses. Effectivement, ouais.
Et à propos du processus d'écriture, vous venez de dire que vous ne réfléchissez pas trop quand vous commencez à faire un strip, j'imagine. Donc, vous commencez à dessiner sans savoir où commence à se terminer le strip.
Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment, je laisse mon esprit divaguer comme ça et je note vraiment les bouts de phrases, en fait. C'est mon processus de création de mes strips. C'est vraiment principalement que de, surtout des textes, des bouts de dialogue comme ça, assez peu de dessins. Ça. Mes gags en général sont assez peu visuels, en fait. Du coup, je marque des bouts de dialogue comme ça, puis je les abandonne et je les reprends. Ce qui permet de faire ces trucs en queue de poisson comme ça, sans queue ni tête tout le temps, quoi.
Et à propos vous dessinez parfois des êtres difformes. Ouais. Pas vraiment humains. Je voudrais savoir comment naissent-ils. Est-ce que vous les imaginez avant de les dessiner, leur forme, ou ils sont créés directement sur des papiers? Parce que certains ressemblent un peu à certaines créatures des tableaux de Hieronymus Bosch.
Ouais. Ouais, c'est une assez forte influence, Bosch. Pareil, je m'en rendais pas compte, mais en revoyant des trucs maintenant de lui. C'est assez marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un bouquin à quatre mains avec Anouk Ricard où on a repris toute une fresque de Bosch. C'était hyper jouissif à faire. Je m'en suis rendu compte à quel point c'était une influence dessiner comme ça des trucs hyper, hyper difformes. En général, non, je fais très peu de recherches. Je dessine directement, pas sur papier parce que je dessine pas mes BD sur papier, je dessine à l'ordinateur, ce qui me permet de pouvoir y aller assez franco sans faire de recherche, de storyboard. L'ordinateur Photoshop permet de pouvoir corriger assez facilement à la fois la composition de l'image, à la fois un personnage, et du coup j'aime bien travailler sur ordinateur pour pouvoir justement dessiner comme ça sans recherche préalable. Donc en fait, dans mes carnets, j'ai juste des dialogues, j'ai des strips un peu fantômes comme ça, où il y a juste des bulles, c'est presque des bonhommes bâtons, quoi. Et après, quand vient le moment de passer au propre, c'est là que apparaissent ces bonhommes bizarres, quoi.
Alors, donc là, moi, ça me surprend complètement parce que j'étais persuadé que c'était, enfin, c'était encre sur papier. Donc, ça veut dire que c'est fait sur tablette graphique, en fait.
Ouais, complètement.
D'accord. Ah oui, c'est assez, c'est assez marrant.
Mais si vous avez vu l'expo Angoulême, j'ai fait des faux originaux.
Oui, ouais, c'est bien compris.
Les originaux, c'est des faux originaux, on peut appeler ça, où j'ai rajouté du blanco pour faire croire.
D'accord, oui, d'accord, je comprends.
Mais pour m'en défendre, c'était expliqué à un moment dans l'expo, discrètement, mais c'était expliqué dans l'expo. Il fallait lire absolument tous les cartels pour comprendre.
Après, je crois que je les ai quasiment tous lus, mais bon, j'ai dû couper cette info-là. Alors justement, j'aimerais bien revenir aussi sur un truc, à mon avis, moi, qui me marque vraiment clairement sur ce que vous faites, c'est que clairement, vous aimez jouer sur le langage, et ce, de différentes façons. Bon, il y a les jeux de mots, par exemple, mais aussi des erreurs orthographiques volontaires. Alors, je pense à des trucs pour expliquer aux éditeurs, par exemple Robert, que vous allez orthographier avec un AU au lieu du O. Bon, on évoquait tout à l'heure l'histoire de la marmotte, où il y a tout un tas d'histoires qui vont fonctionner sur... c'est même pas vraiment des jeux de mots, c'est des références. Par exemple, il y a la bilbe au lieu de la bible dans un des fanzines. Et donc, régulièrement, il y a ces espèces de décalage sur le langage. C'est pas totalement... Des fois, c'est clairement un jeu de mots, mais la plupart du temps, c'est une sorte de petite déviance. Alors, mais déjà, je voulais savoir, déjà, vous en avez conscience, quand même.
Ouais.
Et deuxièmement, pourquoi ?
Et ben...
C'est pour une orthographe, c'est un truc comme ça ?
Comment ?
C'est pour une réforme de l'orthographe ?
Je sais pas trop, je l'ai fait au début sans trop réfléchir parce que ça me faisait marrer. Et puis, à force, j'ai gardé ce truc peut-être un peu sous l'influence de mes copains d'arbitraire. Il y a Pierre Ferrero, Vincent Pianina qui aimait bien jouer avec les mots aussi, comme ça. On s'est peut-être influencé mutuellement. Et puis, j'ai gardé ce truc parce que c'est un peu comme quand je dessine des bonhommes un peu bizarres, tout ça. Ça me permet de plonger un peu le lecteur dans une espèce d'univers un peu à la fois familier et étrange, quoi. Donc, Robert, c'est un nom qu'on connaît, mais orthographié bizarrement, je trouve que ça apporte un petit décalage un peu bizarre, tu vois. Je viens de finir un bouquin de Boris Vian à l'instant, là, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Boris Vian aussi, c'est pareil. Et j'aime vraiment énormément. Et en fait, il fait pareil, je me suis vraiment reconnu là-dedans aussi. Il utilise pas mal de mots valises, de néologismes qu'il invente et tout. Et je trouve que ça.
Passer à tabac de contrebande, le genre de truc. Ouais.
Comment ?
Passer à tabac de contrebande, je me souviens, dans Boris Vian.
Ah ouais, j'en ai pas en tête comme ça, mais ouais, il fait ça. De manière très régulière, et je trouve que ça vraiment ça développe un univers assez assez fort, complètement à la fois fantastique et réaliste quand même, parce que c'est pas de la high fantasy, tu vois, mais du coup je crois que c'est fait pour ça, pour développer une sorte d'univers à la fois familier et étrange, un peu bizarre comme ça.
Mais on disait tout à l'heure que on parlait de comment, enfin, que Camilla avait posé la question de comment vous partez sur les dessins, etc., notamment sur les espèces de petits, les créatures, enfin, les êtres difformes, là. Et moi, je me disais que finalement, il y avait cet aspect langagier assez fort, mais par exemple, dans l'album en question, là, il y a certains strips, j'ai l'impression que l'origine du dessin et la finalité du strip, c'est vraiment le dessin. Par exemple, le soleil qui prend un caillou dans l'œil, là, ou le lion qui danse, ou celui qui est intitulé le gag abstrait, ou par exemple, carrément, ce strip où il y a des visages qui s'emboîtent entre le visage d'une personne et puis et un jean.
Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas. Ça vaut pas pour tout, des fois. En commençant un dialogue, ça me fait penser à une image, à un truc. c'est pas ça vaut pas pour tous mes street tags, mais des fois il y a aussi quelques il y a aussi des gags visuels, c'est vrai, ouais.
Ouais. Et de manière générale, en fait, j'ai pensé que peut-être que un autre mot qui pourrait vous convenir à décrire, mais si on veut absolument trouver des mots, hein, c'est que vous faites quand même des strips assez psychédéliques. Vous aimez bien ce terme ou pas?
Ouais, pourquoi pas, ouais. Même si
Un peu comme la musique, quoi.
ouais, j'ai pas mal de musique psychédélique que j'aime beaucoup, même si j'ai très peu pris de drogue dans ma vie, mais pourquoi pas, ça me va. Bah, si psychédélique, c'est vraiment utiliser l'onirisme et tout ce qui en découle, et les images et les collages d'images comme ça me va, ouais, ça pourrait correspondre à ce que je fais, ouais.
Et à propos de votre travail, donc là, nous, on a lu des strips. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à une forme longue? Est-ce que vous êtes déjà lancé là-dedans ou pas encore? Ou envisagez-vous de le faire?
C'est un truc qui est dans ma tête depuis longtemps parce que déjà on me pose souvent la question, alors du coup je suis obligé d'y réfléchir. Et mais de toute façon, c'est quand même un truc qui m'intéresserait aussi forcément parce que je trouve que l'humour, enfin moi en tout cas tel que je le vois, ça a besoin souvent de changer de forme un peu pour se renouveler. Du coup, je me pose souvent la question des formes longues, mais je suis pas du tout sûr que ça correspondrait avec ce que je sais faire. Pour le professeur Cyclope, par exemple, bah, les histoires croûtes, mon deuxième bouquin sur le requin marteau, c'était des histoires qui étaient publiées à l'origine dans le professeur Cyclope. Il m'avait demandé justement de faire ces histoires c'était de la BD numérique, donc pour tablette, ordinateur, donc c'était 36 grandes cases comme ça. Donc pour moi, c'était déjà vachement plus long que ce que je faisais avant. Mais je ne savais pas faire autrement que juste commencer comme si je faisais un strip habituel et puis tirer sur la corde et les tirer au maximum pour arriver à rentrer le plus de blagues possible. Mais en général, les scénarios étaient toujours un peu construits pareil, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, on construit une histoire et puis pouf, on tombe au point de départ pour faire une chute. Il n'y a pas vraiment. Je ne maîtrise pas trop l'art du scénario pour faire une histoire longue, c'est-à-dire qu'il faut créer des personnages, il faut faire preuve de psychologie, de personnages du coup. Et en fait, ça, c'est un truc que moi, je sais pas bien faire, je pense. Du coup, si histoire longue, il faudrait que je trouve une manière un peu bizarre. Donc, une de mes pistes est de faire de l'autobiographie, parce que du coup, j'ai pas de personnage à inventer, m'inspirer de faits réels. Et ça, un jour, peut-être que je ferai ça, une espèce de fausse autobiographie ou un truc comme ça. C'est ouais, des trucs que j'ai en tête que j'ai pas eu le temps de. Que je
Après,
peux
vous avez
prévoir
déjà un peu commencé avec la Bible.
avec la
C'est un
Bible
autre. Oui, une
d'autobiographie.
histoire longue.
Ah oui, ouais, mais ça c'était quand même vraiment une histoire de c'était vraiment un truc sans que vraiment sans qu'une tête pour le coup. Je voulais faire une adaptation de la Bible en dessin à la base et je me suis bien rendu compte que ça était un peu plan-plan et déjà fait 1000 fois. Du coup, j'ai juste gardé un peu quelques sous-titres que j'avais commencé à écrire, et puis j'en ai écrit d'autres qui auraient pu être mis en image, et j'ai préféré mettre en image autre chose pour créer cette espèce de décalage entre le sous-titre. Et plusieurs années à finir, mais avec plaisir.
Voilà. Bah écoutez, bah merci beaucoup Antoine.
Merci à vous pour l'invitation.
C'est très sympa de venir nous parler de votre travail. Et
Alors,
puis ben nous on va continuer.
oui.
groupe Célane. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD. Ce soir, on va vous parler des enfants libres publiés par la boîte à bulles. Ne regarde pas derrière toi, des Colas Annabelle, paru aux éditions Ça et là. Et d'un travail comme un autre, d'Alex Inker, publié par les éditions Sarbacane. Mais on commence par Ne regarde pas derrière toi, des Colas Annabelle, paru aux éditions Ça et là. Julia, on t'écoute.
Alors moi j'ai lu Ne regarde pas derrière toi, une BD d'Annabelle Colasso, dont le titre original en espagnol est No mires atrás, édité chez Ça et là, et qui est donc une BD de 128 pages en couleur, avec un style assez particulier qui m'a beaucoup plu. Mais je vais commencer par expliquer un petit peu le fond de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Blanca, une jeune fille qui a perdu ses parents dans une petite ville, qui croit voir une espèce de personnage un peu effrayant au loin, à certains moments de sa vie, souvent des moments tragiques, de perte de personnes, etc. C'est donc une histoire qui évolue autour de cette héroïne et également de la découverte d'un corps d'une jeune fille sur la plage par cette fameuse Blanca et son ami Sam. Donc la trame est posée et c'est donc une histoire qui s'inspire des creepypastas qui sont les histoires effrayantes qu'on peut trouver sur internet et notamment d'un personnage fameux qui est celui de Slenderman qui est le personnage, une espèce d'être très filiforme qu'on voit au loin dans les bois dont on ne voit pas le visage mais qui nous ferait accéder à une autre dimension ou qui pourrait nous tuer selon les légendes urbaines d'internet. Donc elle s'est inspirée, l'autrice Annabelle Colasso s'est inspirée de cette légende, ce qui m'a assez dérangée parce que j'avais suivi justement les légendes de Slenderman sur Twitter avec Marble Hornets à l'origine. Et même si son Slenderman est très différent physiquement, on reconnaît vraiment la légende. Et donc ce que j'ai trouvé, bon, malgré tout intéressant, c'est la manière dont elle se l'approprie. Déjà, elle lui donne une forme assez mignonne, on va dire. Elle ressemble à des sortes de ghosts comme dans Pac-Man, un petit peu. Un peu comme Clyde dans Pac-Man, une espèce de petit fantôme avec... Des petits yeux comme ça. Malgré tout, l'histoire finit par nous prendre. Il y a des bonnes trouvailles. Je trouve que ce qui donne vraiment de la force à l'album, c'est les trouvailles esthétiques. D'abord, on est sur donc une bande dessinée très très colorée, avec un style particulier, puisque toutes les surfaces sont comme gribouillées. Les personnages, à bien des égards, font penser au manga, au niveau des yeux, au niveau des cheveux roses, etc. Il y a d'ailleurs, la BD ouvre sur un dialogue, sur une scène où l'héroïne lit un manga chez son ami. Les scènes d'écran, de jeux vidéo, de photos de portable, etc. sont pixelisées, ce qui est assez joli. Après, il y a quelques maladresses, je trouve, formelles. Par exemple, la place des bulles, par moments, la lecture n'est pas fluide. Au niveau des dispositions des personnages, il y a des choix qui sont faits qui n'aident pas à la fluidité de la lecture. Mais c'est, je trouve, complètement rattrapé par des scènes magnifiques, par exemple des longs plans de piscine, différents angles, des plans aussi très variés, très, très bien trouvés, avec de la trame extrêmement sombre de la mer, de l'océan. Il y a aussi les paysages de forêt avec des troncs globuleux comme ça, dans les tons violets qui sont extrêmement, extrêmement jolis. Voilà, donc c'est vraiment même si la logique de la BD n'est pas toujours fluide, c'est vraiment un dessin que j'ai trouvé très très beau. Et puis finalement, qui permet de développer différents niveaux d'histoire, à la fois entre le quotidien un petit peu ennuyeux, voire angoissant de cette Blanca, et en même temps les univers des jeux vidéo, des légendes urbaines sur internet, mais aussi des jeux de rôle, des jeux de plateau. Donc c'est... finalement une histoire, enfin à plusieurs échelles comme ça, qui est développée entre onirique et réalisme. Et jusqu'au bout, elle tient cet apparent paradoxe, puisque à la fois on apprend donc l'histoire qu'elle a créée, à la fois issue de Slenderman, dans cette légende urbaine dont je parlais plus tôt, mais aussi d'un fait divers bien réel qui est arrivé aux États-Unis et donc qui est une source d'inspiration pour la narration de l'histoire. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi une autre trouvaille esthétique qui était le passage à un moment donné de plusieurs planches en noir et blanc pour en montrer très particulier l'histoire et qui, je trouve, faisait un effet de contraste assez saisissant par rapport à l'histoire. Donc, ne regarde pas derrière toi ou don't look back, c'est plutôt une BD que j'ai bien aimée.
Merci Julia pour cette chronique. Et toi, Pierre-Paul, tu en as pensé quoi ?
Que dire ? La construction des pages m'a au début posé problème, car j'avais l'impression de sauter d'une action à l'autre. Il manquait une fluidité, un raccord. Parfois, ce raccord était présent, il y avait un regard entre deux personnages, une action vraiment accompagnée, mais plus souvent, en fait, c'était pas le cas. Et c'était un peu étrange, en fait, de rentrer dedans à cause de ça. Concernant l'image, je commence à apprécier ce genre de dessin. J'ai vraiment eu une phase de détestation, mais qui n'est pas forcément propre à cette bande dessinée, qui est vraiment propre à ce genre de dessin. Et puis maintenant, plus j'en lis peut-être, plus ça passe, voire même je l'apprécie en fait. Comme souvent, le décor et les paysages, ça apporte beaucoup à la qualité graphique de la BD. Et sur celle-là, on le voit bien. On le voit bien, des gros paysages qui nous donnent envie de nous attarder, en fait, plus que des visages. Notons quand même qu'il y a un problème de traduction qui saute aux yeux. Il y a une façon non simple d'écrire, d'établir les dialogues. Enfin, pour moi, c'est pas fluide, encore une fois, et c'est dommage. On perd un peu quelque chose, je pense. Et concernant l'histoire, je suis assez mitigé. Parce qu'on voit assez rapidement l'inspiration, ce qui apporte pas beaucoup de joie. Par contre, en fait, j'ai commencé vraiment à lire la BD sans espoir. J'étais là, bon, qu'est-ce que c'est et tout. Et vraiment, petit à petit, j'étais happé par les personnages. Et c'est pas tant le fond, c'est pas tant l'intrigue en fait qui m'a touché, que vraiment les personnages et comment ils vont évoluer en fait dans leur vie, dans leur interaction, aussi bien avec l'importance des jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de plateau, l'importance d'internet et l'appétit pour l'inconnu, c'est pour la ville, pour un autre monde. Ils sont dans un village, il y a certains qui partent, d'autres qui reviennent. Et évidemment, ça apporte un lot de déceptions assez important. Ça m'a profondément touché en fait.
Ok. On poursuit avec un travail comme un autre. Nandi, on t'écoute, c'est à toi.
Alex W. Winker adapte le premier roman de l'américaine Virginia Reeves, paru en 2018. Il s'était déjà adonné à cet exercice avec un superbe album Sauver le peuple, adaptation du roman de Yan Liangke, reprenant l'iconographie de la Chine populaire et une histoire abracadabrantesque. Ici encore, cette adaptation est une réussite, et pour cause, car tout a été remis sur le métier, via graphisme et scénario. En effet, ainsi qu'Alex W. Winker l'a confié à Damien Cantea, je n'adapte pas le roman à proprement parler, mais j'adapte mon récit du roman. Soit, plongeons-nous dans l'histoire avec l'incipit du roman. On est avec quelque chose dans les veines. Pour mon père, c'était le charbon. Pour Marie, c'est la ferme. Pour moi, un puissant courant électrique. Nous voici donc dans les années 30, en Alabama, donc avec ça, la Grande Dépression. Ici, des protagonistes se heurtent à l'impact de pouvoir des banques et, last but not least, à ce qui peut être perçu comme la plus grande révolution technique moderne après l'imprimerie, l'électricité et même l'électrification du monde. Dans cette période où être marginal au progrès est un état de fait, deux mondes se rencontrent donc en les personnes de Mary, fille de fermier, et de Roscoe T. Martin, électricien. Campagne versus ville, tradition versus progrès, mécanique versus électricité, savoir-faire ancien versus savoir-faire nouveau. Amoureux, Roscoe reprend la ferme de son beau-père, selon le souhait de Mary. Mais Roscoe n'est en rien un fermier, et la crise frappe à la porte et pointe l'urgence de savoir travailler une ferme. Or, ce savoir est obsolète. En effet, cette crise grave est une révolution. Les machines ont remplacé les bras, les fermiers sont endettés, les maisons hypothéquées aux banques pour survivre un temps. Plein pouvoir donc aux banques, mais aussi domine Alabama Power, compagnie d'électricité qui rachète tant que faire se peut et jusqu'à ce que mort s'en suive. Mort, migration ou prison. Les fermiers sont en panade, l'exode rural est massif, les précaires au bord des routes. On peut penser à la bourse de l'eau et à ses conséquences sur les fermiers australiens. Bref, malgré ce contexte, Roscoe est un progressiste. et nous ne pouvons juste opter contre lui. Miracle de l'électricité, c'est certain, et c'est plus sûr que le feu, dira-t-il concernant une lampe à huile. Alors, Roscoe est un marginal dans le monde des fermiers, mais aussi, il se marginalise du monde du progrès par une action illégale et assassine. Croyant en Faraday pour sauver sa peau et celle de sa famille, et ainsi que de son employé afro-américain Wilson, Roscoe conçoit un projet fou et peu légal, détourner le courant d'Alabama Power pour raccorder sa ferme, convertir, le mot est choisi, sa vieille batteuse à l'électricité. Un moyen contre l'impossibilité de payer de la force de travail, certes, sans sortir, mais un hack tout de même, et inattendu. Alors, Roscoe, un homme, attend la foudre pour que sa machine s'innerve de vie. Ça rappelle quelque chose. Et il a raison. Cette manœuvre est quasi hors du judiciarisable, mais s'il n'y a pas de règles, demeure une justice à tout berzingue. Or, un employé d'Alabama Power, inspectant le montage de Roscoe, meurt électrocuté. Visuellement, bam, pleine page, magnifique, on dirait du Francis Bacon et sans jeu de mots. Donc, si de prime abord ce thème m'intéressait, je n'étais pas fan de l'esthétique, mais en lisant, l'aspect graphique gagne en force immersive. C'est que M. Inker reprend des codes précis et légitimés par le thème. Il s'ancre, n'est-ce pas, dans l'époque traitée. En bref, c'est motivé, habile et véritablement un tour de force, comme ça l'a été pour sa BD Sauver le Peuple. En effet, voilà un nuancier de couleurs restreintes, dans des variations de gris bleu et d'orange. Un effet d'impression rappelle des tirages comics de l'époque, vous savez, les fameuses trambendées, cette technique d'impression par points du début du siècle dernier. Aussi, parsemé en guise d'effet de réel qui donne envie de lire et de relire cette BD, des détails qui n'en sont pas. Ils circulent comme de l'électricité, cachés et innervants dans la BD, et nos jolies syllabes, et pour cause. Tout à coup, Yellow Mama, Rod, la première chaise électrique. Le cinéma, avec les Keystone Cops, policiers de fiction vulgaire et hystérique, incompétents. Une radio, Oh carry me back to the land of my dreams, des Delmore Brothers. Enfin, des histoires tant saugrenues que véridiques, éprouvées par Roscoe, progressiste et en système D, constant, en marge, en solitude et en solidarité, qui fera tout pour survivre. Alors, je peux vous dire que le papier reste un fichu transmetteur d'électricité. En effet, du savoir, mais pas de leçons. Le traitement d'une époque, et sans forcer la comparaison, et néanmoins en extraire des questionnements, ma foi perturbants certes, mais en finesse. Autre aspect m'ayant plu, le rapport au savoir et à son détournement, le rapport aux livres, anciennes révolutions techniques qui sont partout. Autre aspect, se situer par rapport à l'électricité et à notre progressiste désaxé. Il fait peur parfois. En effet, le personnage peut avoir une figure de mime et parfois des traits d'horreur comme Transi. Comme lui, sans doute, est-ce une grimace qui nous échappe entre le oui et le non, mais c'est fait, nous sommes électrocuits. Donc, à quelle révolution en cours? Le rapport des savoirs dans un monde en construction? Les migrants, les règles qui vacillent et une justice qui s'applique? L'application d'un savoir du détournement et le coût en chair de ce savoir enfin? Et pourtant, ce pourrait être, comme le dit le titre, un travail comme un autre.
Et toi, Julia, tu me dis quoi?
C'est, en termes de littérature, ça m'a beaucoup fait penser au roman de Steinbeck, le côté très monde ouvrier, avec un drame comme ça qui scinde la narration en deux. Il y a vraiment un avant et un après dans la bande dessinée. Mais je vais plutôt parler de la forme du livre, parce que la narration est une adaptation. J'ai pas lu le roman, mais en tout cas, ça rend plutôt très bien à la lecture. Mais ce qui m'a le plus plu finalement, c'est la forme, parce que esthétiquement, c'est une BD qui est très, très originale, avec des tons très tranchés. Elle est en noir et blanc, orange et bleu. Donc il y a beaucoup de voilà, cette couleur orange est omniprésente, et ça donne un caractère au livre très très particulier. Il y a des magnifiques scènes de paysages de nuit aussi bleutées comme ça dans les champs de maïs qui sont voilà, qui rendent très très bien. Donc j'ai vraiment pas mal aimé. C'est une histoire assez tragique, mais qui est super bien traitée et très 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 belle esthétiquement. C'est vraiment quasiment 200 pages, mais qu'on lit comme ça avec une facilité déconcertante. Donc voilà, moi je trouve que c'était une très bonne BD que je recommande chaudement.
Et pour terminer ce soir, la chronique de Pierre Paul sera enfin libre, publiée par la boîte à bulles.
Il est étrange de commencer une BD par une lettre. Généralement, les codes de la BD ont tendance à partir du plus grand pour aller au plus petit. Le plan d'ensemble nous permet de situer le lieu, l'époque, bref, en fait, le contexte. Ben, commencer par une lettre, ben, ça apporte pas ça. Ça nous plonge tout de suite avec des noms, des mots, des craintes et des doutes. Et c'est plutôt une bonne accroche, car il suffit d'une case pour me saisir. Bon, après, est-ce que la suite va continuer à maintenir notre curiosité? Ben, je pense que ça, vraiment, ça va dépendre des lecteurs, car au final, on est assez différents. Et voilà, hein, je parle d'une lettre dès le premier mot, même si c'était le nom de la BD, donc en fait, ils m'ont eu. Enfin libre est sorti en mars, scénarisé par Philippe Renaud et dessiné par David Barou. Peut-être que vous les connaissez en fait sous un autre nom, sous le nom d'Enfin Libre. Oui, Enfin Libre en fait a écrit Enfin Libre, c'est surprenant, c'est étrange, vous allez me dire, et moi je vous répondrai, bah peut-être, en fait je n'en sais rien. Notons toutefois ce délicat humour du monde, parce que Enfin Libre sort lorsqu'on est confiné. Bon, on reviendra là-dessus. Par contre, intéressons-nous à ce duo juste un instant, parce que c'est pas la première œuvre qu'ils produisent ensemble. Déjà en 2006, ils ont fait le Flouink, puis en 2008, La Rumeur, qui était une œuvre, les deux même en fait, c'était des œuvres incroyables en noir et blanc, qui caressaient vraiment avec les limites de l'expérience en fait. Et après cette phase en noir et blanc, on arrive sur un autre mouvement, un nouvel âge. C'est un désir plus fantastique, une inspiration qui fait un peu penser aux contes philosophiques, en fait, ou les récits initiatiques. Je termine sur une présentation un peu décousue par l'intérêt que j'ai eu à lire la lettre d'Alexandre mise en image. Alors, la lettre d'Alexandre, c'est pas du tout le nom. Alexandre, c'est l'arrière-grand-père de l'un des deux, j'ai pas compris exactement lequel c'était, qui avait fait une lettre en 1914 en fait, quand il était sous les tranchées, et il raconte le rapprochement qu'il y avait entre les militaires allemands et les militaires français lors du 24 décembre. Ça rejoint un peu le film, Joyeuse année ou bonne anniversaire, enfin, Joyeux Noël, t'as raison. Ça n'a rien à voir, c'est juste beau, c'est juste émouvant, et juste pour ça, ils ont ma plus grande sympathie. Je tenais à le dire. Bref, Enfin Libre, fait par Enfin Libre, il est temps d'en parler. Commençons avec un mot douceur, même si on commence par une perte. L'évolution de l'histoire, sa couleur, la couleur est importante. Ses personnages, ça amène une satisfaction et un profond contentement en fait. La forme de l'histoire se tient, c'est vraiment une initiation, aussi bien d'un père que de sa fille. Et on voit vraiment l'omniprésence des symboles en fait. Moi j'ai vu du freudien un peu partout, mais après c'est mon analyse, hein. Peut-être que vous verrez autre chose. Et si on revient sur l'actualité du moment, le Covid est là, et le monde a complètement fait arrêter sa trajectoire. Et ça, c'est là que je parle de l'histoire maintenant, en fait, du présent, pas de la BD. Et en fait, l'ensemble de nos projets vient de se casser la gueule, pour la grande majorité, et on a vécu vraiment sur un autre temps. Enfin Libre, c'est un peu la même chose. C'est vraiment un truc qui s'arrête. Et on se retrouve en fait dans une recherche intérieure, un peu mystérieuse, un peu fantastique, où on est obligé de prendre conscience en fait, de nous-mêmes. Enfin, du moins, c'est ce qui va se passer pour le personnage principal. Et on va comprendre en fait, qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler le monde. Notamment parce qu'il est composé en fait, de choses complètement incroyables. Et on le dit, une des choses les plus incroyables, c'est peut-être nous-mêmes. Alors il faut accepter d'y aller, accepter de lâcher pour nous découvrir, et peut-être même nous pardonner. Voilà, c'est le bon moment pour lire Enfin Libre, et allez-y.
Je suis curieuse d'entendre ton retour, Nandi. Tu as pensé quoi de cette BD ?
Effectivement, mon brave, la recherche intérieure, vaste programme, comme dirait l'autre. Et le monde y est vaste, pourvu qu'on ose s'y tromper. Cette maison d'édition, la boîte à bulles, peut se targuer d'avoir un large public. Voyons ce livre, il est destiné à tous, et ça tombe bien, ce monde en soi, il est à tous. Donc oui, destination fort intérieur, ce lieu sans équivalent, avec ses symboles, ses figures, à la fois partagées et particulières. En effet, en lisant ce livre, on perçoit des couleurs changeantes selon l'espace intérieur de nos personnages, un sous-texte travaillé, des références, mais tout cela reçoit un traitement à la fois simple, humble et franchement onirique. Vous avez déjà entendu un chat balancer des haïkus à l'envi ? Tenez. Vous avez déjà vu des abeilles qui reprennent le contrôle ? Non, pardon, vous avez déjà vu des abeilles ? Ceci n'est pas une réflexion écologiste. Tout cela est comme si le monde intérieur s'était tout à coup déversé dans le monde extérieur, pour nous rappeler à nos idées. Refus du monde intérieur, eh bien, il se déverse comme de la couleur partout. Par exemple, il y a un graphisme en phylactère adapté à chaque protagoniste, des personnages aux formes plus que surprenantes, pas si naïves. Il y a donc des tensions en soi qui paraissent partout et, refoulées, viennent hanter le monde. En parlant de tension, une autre chose m'a plu. C'est qu'on dévalorise souvent le monde de l'ado pour en faire un lieu de crise, comme on a une crise de nerfs. Mais c'est exactement une crise, et non à négliger. Je dirais, pédante, que crise vient de krinein, le verbe grec signifiant diviser. C'est exactement ce qu'on perçoit dans cette BD. Ce moment où l'on peut assumer de se diviser, où on se délie, on se répartit, et justement, c'est reparti. Cette reconnaissance de contradiction, de foisonnement, fera l'intégrité, et ne manque pas d'en être une en soi. Ainsi, on œuvre, et jeune adolescente, on n'en fait pas moins. Autre pédanterie, mais bon, allons. Certaines représentations me font penser à Nicolas Ledoux, un architecte utopiste dont l'œuvre est assez fascinante à compiler. Perso, c'est une part de mon univers intérieur, de ma terre, des hommes, et ce fut un plaisir de voir mis en scène ses dessins. Après, peut-être parce que cette BD m'a détendu et que par conséquent j'étais apte à percevoir des choses que je voulais voir, revoir, ces fragments en soi. Comme quoi, parfois, un livre, une image, c'est déjà un vaste espace qu'on fait venir en soi et parfois qu'il est important d'habiter. Donc peut-être que tout cela n'était que mon imagination. Et la vôtre, où est-elle? Enfin, libre?
Ça a l'air intéressant tout ça, donc n'hésitez pas à profiter de votre déconfinement pour aller faire un tour en librairie. Nous, avec Strip Sismique, on vous donne rendez-vous en juin pour notre dernière émission de la saison. Cette émission a été préparée par Michel Carton, présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Nandi Gicalou, Julia Legrand et Pierre Paulsens. A très bientôt sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Bisous.